il n'est pas sans intérêt de faire observer qu'au moment où le corps de Lucien fut ravi, Jacques Collin s'était décidé par une résolution suprême à tenter une dernière incarnation, non plus avec une créature, mais avec une chose. Il avait enfin pris le parti fatal que prit Napoléon sur la chaloupe qui le conduisit vers le Bellérophon. Par un concours bizarre de circonstances, tout aida ce génie du mal et de la corruption dans son entreprise. Aussi, quand même le dénouement inattendu de cette vie criminelle perdrait un peu de ce merveilleux qui, de nos jours, ne s'obtient que par des invraisemblances inacceptables, est-il nécessaire, avant de pénétrer avec Jacques Collin dans le cabinet du procureur général, de suivre Madame Camusot chez les personnes où elle alla, pendant que tous ces événements se passaient à la conciergerie. Une des obligations auxquelles ne doit jamais manquer l'historien des mœurs, c'est de ne point gâter le vrai par des arrangements en apparence dramatiques, surtout quand le vrai a pris la peine de devenir romanesque. La nature sociale à Paris, surtout, comporte de tels hasards, des enchevêtrements de conjectures si capricieuses, que l'imagination des inventeurs est à tout moment dépassée. La hardiesse du vrai s'élève à des combinaisons interdites à l'art, tant elles sont invraisemblables ou peu décentes, à moins que l'écrivain ne les adoucisse, ne les émonde, ne les châtre. Madame Camusot essaya de se composer une toilette du matin presque de bon goût, entreprise assez difficile pour la femme d'un juge qui, depuis 6 ans, avait constamment habité la province. Il s'agissait de ne donner prise à la critique ni chez la marquise d'Espard, ni chez la duchesse de Maufrigneuse, en venant les trouver de 8 à 9 heures du matin. Amélie Cécile Camusot, quoique née Thirion, hâtons-nous de le dire, réussit à moitié. N'est-ce pas, en fait de toilette, se tromper 2 fois? On ne se figure pas de quelle utilité sont les femmes de Paris pour les ambitieux en tout genre. Elles sont aussi nécessaires dans le grand monde que dans le monde des voleurs, où, comme on vient de le voir, elles jouent un rôle énorme. Ainsi, supposez un homme forcé de parler dans un temps donné, sous peine de rester en arrière dans l'arène. À ce personnage, immense sous la Restauration, et qui s'appelle encore aujourd'hui le garde des Sceaux. Prenez un homme dans la condition la plus favorable, un juge, c'est-à-dire un familier de la maison. Le magistrat est obligé d'aller trouver soit un chef de division, soit le secrétaire particulier, soit le secrétaire général, et de leur prouver la nécessité d'obtenir une audience immédiate. Un garde des Sceaux est-il jamais visible à l'instant même? Au milieu de la journée, s'il n'est pas à la chambre, il est au Conseil des ministres, où il signe, où il donne audience. Le matin, il dort, on ne sait où. Le soir, il a ses obligations publiques et personnelles. Si tous les juges pouvaient réclamer des moments d'audience, sous quelque prétexte que ce soit, le chef de la justice serait assailli. L'objet de l'audience, particulière, immédiate, est donc soumis à l'appréciation d'une de ces puissances intermédiaires qui deviennent un obstacle, une porte à ouvrir, quand elle n'est pas déjà tenue par un compétiteur. Une femme, elle, va trouver une autre femme. Elle peut entrer dans la chambre à coucher immédiatement, en éveillant la curiosité de la maîtresse ou de la femme de chambre. Surtout lorsque la maîtresse est sous le coup d'un grand intérêt ou d'une nécessité poignante. Nommez la puissance femelle, Madame la marquise d'Espard, avec qui devait compter un ministre. Cette femme écrit un petit billet ambré que son valet de chambre porte au valet de chambre du ministre. Le ministre est saisi par le poulet au moment de son réveil. Il le lit aussitôt. Si le ministre a des affaires, l'homme est enchanté d'avoir une visite à rendre à l'une des reines de Paris, une des puissances du faubourg Saint-Germain, une des favorites de Madame, de la Dauphine ou du roi. Casimir Perier, le seul premier ministre réel qu'ait eu la Révolution de Juillet, quittait tout pour aller chez un ancien premier gentilhomme de la chambre du roi Charles X. Cette théorie explique le pouvoir de ces mots. « Madame, Madame Camusot, pour une affaire très pressante, et que c'est Madame. dis à la marquise d'Espard par sa femme de chambre qui la supposait éveillée. Aussi la marquise cria-t-elle d'introduire Amélie incontinent. La femme du juge fut bien écoutée quand elle commença par ces paroles. « Madame la marquise, nous sommes perdus pour vous avoir vengée. »«
Comment, ma petite belle ? »
répondit la marquise en regardant Madame Camusot dans la pénombre que produisit la porte entr'ouverte. « Vous êtes divine ce matin avec votre petit chapeau. Où trouvez-vous ces formes-là ? »
« Madame, vous êtes bien bonne, mais vous savez que la manière dont Camusot a interrogé Lucien de Rubempré a réduit ce jeune homme au désespoir et qu'il s'est pendu dans sa prison.
« Que va devenir Madame de Sérisy ? » s'écria la marquise en jouant l'ignorance pour se faire raconter tout à nouveau.
« Hélas, on la tient pour folle, » répondit Amélie. « Ah, si vous pouvez obtenir de sa grandeur, qu'il mande aussitôt mon mari par une estafette envoyée au palais, le ministre saura d'étranges mystères. Il en fera bien certainement part au roi. Dès lors, les ennemis de Camusot seront réduits au silence. »
« Quels sont les ennemis de Camusot ? » demanda la marquise.
« Mais le procureur général est maintenant monsieur de Sérisy. »
« C'est bon, ma petite, » répliqua madame d'Espard, qui devait, à messieurs de Granville et de Sérisy, sa défaite dans le procès ignoble qu'elle avait intenté pour faire interdire son mari. « Je vous défendrai. Je n'oublie ni mes amis, ni mes ennemis. » Elle sonna, fit ouvrir ses rideaux, le jour vint à flot. Elle demanda son pupitre, et la femme de chambre l'apporta. La marquise griffonna rapidement un petit billet. « Que Godard monte à cheval et porte ce mot à la chancellerie. « Il n'y a pas de réponse, » dit-elle à sa femme de chambre. La femme de chambre sortit vivement et, malgré cet ordre, resta sur la porte pendant quelques minutes.
« Il y a donc de grands mystères, » demanda madame d'Espard.
« Contez-moi donc cela, chère petite. Clotilde de Grandlieu n'est-elle pas mêlée à cette affaire ? » ?»«
Madame la marquise saura tout par sa grandeur, car mon mari ne m'a rien dit. » Il m'a seulement averti de son danger. Il vaudrait mieux pour nous que Madame de Sérisy mourût plutôt que de rester folle.
« Pauvre femme, » dit la marquise, « mais ne l'était-elle pas déjà ? » Les femmes du monde, par leurs 100 manières de prononcer la même phrase, démontrent aux observateurs attentifs l'étendue infinie des modes de la musique. L'âme passe tout entière dans la voix, aussi bien que dans le regard. Elle s'empreint dans la lumière comme dans l'air, élément que travaillent les yeux et le larynx. Par l'accentuation de ces deux mots, pauvre femme, la marquise laissa deviner le contentement de la haine satisfaite, le bonheur du triomphe. Ah ! Combien de malheurs ne souhaitait-elle pas à la protectrice de Lucien ? La vengeance qui survit à la mort de l'objet haï, qui n'est jamais assouvie, cause une sombre épouvante. Aussi, Madame Camusot, quoique d'une nature âpre, haineuse et tracassière, fut-elle abasourdie. Elle ne trouva rien à répliquer, elle se tut.
Diane m'a dit en effet que Léontine était allée à la prison, reprit Madame d'Espard.
Cette chère duchesse est au désespoir de cet éclat, car elle a la faiblesse d'aimer beaucoup Madame de Sérisy. Mais cela se conçoit, elles ont adoré ce petit imbécile de Lucien presque en même temps, et rien ne lie ou ne désunit plus deux femmes que de faire leur dévotion au même autel.
Aussi cette chère amie a-t-elle passé 2 heures hier dans la chambre de Léontine. Il paraît que la pauvre comtesse dit des choses affreuses. On m'a dit que c'est dégoûtant. Une femme comme il faut ne devrait pas être sujette à de pareils accès. « Fi, c'est une passion purement physique. La duchesse est venue me voir, pâle comme une morte. Elle a eu bien du courage. Il y a dans cette affaire des choses monstrueuses.
Mon mari dira tout au garde des Sceaux pour sa justification, car on voulait sauver Lucien. Et lui, madame la marquise, il a fait son devoir. Un juge d'instruction doit toujours interroger les gens au secret, dans le temps voulu par la loi. » Il fallait bien lui demander quelque chose à ce petit malheureux, qui n'a pas compris qu'on le questionnait pour la forme, et il a fait tout de suite des aveux. C'était un sot et un impertinent, dit sèchement Madame d'Espard.
La femme du juge garda le silence en entendant cet arrêt.
Si nous avons succombé dans l'interdiction de Monsieur d'Espard, ce n'est pas la faute de Camusot, je m'en souviendrai toujours, reprit la marquise après une pause.
C'est Lucien, messieurs de Cerisy, Beauvan et de Granville, qui nous ont fait échouer.
Avec le temps, Dieu sera pour moi. Tous ces gens-là seront malheureux. Soyez tranquilles, je vais envoyer le chevalier d'Espard chez le garde des Sceaux, pour qu'il se hâte de faire venir votre mari si c'est utile.
Ah, madame!
Écoutez, dit la marquise, je vous promets la décoration de la Légion d'honneur immédiatement, demain. Ce sera comme un éclatant témoignage de satisfaction pour votre conduite dans cette affaire.
Oui, c'est un blâme de plus pour Lucien, ça le dira coupable. On se pend rarement pour son plaisir.
Allons, adieu, chère belle.
Madame Camusot, 10 minutes après, entrait dans la chambre à coucher de la belle Diane de Maufrigneuse, qui, couchée à 1 heure du matin, ne dormait pas encore à 9 heures.
Quelque insensibles que soient les duchesses, ces femmes, dont le cœur est en stuc, ne voient pas l'une de leurs amies en proie à la folie sans que ce spectacle ne leur fasse une impression profonde. Puis, les liaisons de Diane et de Lucien, quoique rompues depuis 18 mois, avaient laissé dans l'esprit de la duchesse assez de souvenirs pour que la funeste mort de cet enfant lui porta à elle aussi des coups terribles.
Diane avait vu pendant toute la nuit ce beau jeune homme, si charmant, si poétique, qui savait si bien aimer, pendu, comme le dépeignait Léontine dans les accès et avec les gestes de la fièvre chaude. Elle gardait de Lucien d'éloquentes, d'enivrantes lettres, comparables à celles écrites par Mirabeau à Sophie, mais plus littéraires, plus soignées, car ces lettres avaient été dictées par la plus violente des passions, la vanité. Posséder la plus ravissante des duchesses, la voir faisant des folies pour lui, des folies secrètes, bien entendu. Ce bonheur avait tourné la tête à Lucien. L'orgueil de l'amant avait bien inspiré le poète. Aussi la duchesse avait-elle conservé ces lettres émouvantes, comme certains vieillards ont des gravures obscènes, à cause des éloges hyperboliques donnés à ce qu'elle avait de moins duchesse en elle.
« Et il est mort dans une ignoble prison !» se disait-elle en serrant les lettres avec effroi quand elle entendit frapper doucement à sa porte par sa femme de chambre. « Madame Camusot, pour une affaire de la dernière gravité qui concerne Madame la Duchesse, » dit la femme de chambre.
Diane se dressa sur ses jambes tout épouvantée.
« Oh ! » dit-elle en regardant Amélie qui s'était composée une figure de circonstance. « Je devine tout. Il s'agit de mes lettres. Ah, mes lettres !» Et elle tomba sur une causeuse. Elle se souvint alors d'avoir, dans l'excès de sa passion, répondu sur le même ton à Lucien, d'avoir célébré la poésie de l'homme comme il chantait les gloires de la femme, et par quelle dithyrambe.
Hélas, oui, madame, je viens vous sauver plus que la vie. Il s'agit de votre honneur. Reprenez vos sens, habillez-vous, allons chez la duchesse de Grandlieu, car heureusement pour vous, vous n'êtes pas la seule de compromise.
Mais Léontine, hier, a brûlé, m'a-t-on dit, au palais, toutes les lettres saisies chez notre pauvre Lucien.
Mais madame, Lucien était doublé de Jacques Collin, s'écria la femme du juge.
Vous oubliez toujours cet atroce compagnonnage, qui certes est la seule cause de la mort de ce charmant et regrettable jeune homme. Or, ce Machiavel du bagne n'a jamais perdu la tête, lui. Monsieur Camusot a la certitude que ce monstre a mis en lieu sûr les lettres les plus compromettantes des maîtresses de son...
son ami,
dit vivement la duchesse.
Vous avez raison, ma petite belle. Il faut aller tenir conseil chez les Grandlieu. Nous sommes tous intéressés dans cette affaire. Et fort heureusement, Cérizy nous donnera la main.
Le danger extrême a, comme on l'a vu par les scènes de la conciergerie, une vertu sur l'âme aussi terrible que celle des puissants réactifs sur le corps. C'est une pile de Volta morale. Peut-être le jour n'est-il pas loin où l'on saisira le mode par lequel le sentiment se condense chimiquement en un fluide
peut être pareil à celui de l'électricité. Ce fut chez le forçat et chez la duchesse le même phénomène. Cette femme abattue, mourante, et qui n'avait pas dormi, cette duchesse si difficile à habiller, recouvra la force d'une lionne aux abois et la présence d'esprit d'un général au milieu du feu. Diane choisit elle-même ses vêtements et improvisa sa toilette avec la célérité qui eût mise une grisette qui se sert de femme de chambre à elle-même. Ce fut si merveilleux que la soubrette resta sur ses jambes, immobile pendant un instant, tant elle fut surprise de voir sa maîtresse en chemise, laissant peut-être avec plaisir apercevoir à la femme du juge, à travers le brouillard clair du lin, un corps blanc aussi parfait que celui de la Vénus de Canova. C'était comme un bijou sous son papier de soie. Diane avait deviné soudain où se trouvait son corset de bonne fortune, ce corset qui s'accroche par devant, en évitant aux femmes pressées la fatigue et le temps si mal employé du lassage. Elle avait déjà fixé les dentelles de la chemise et massé convenablement les beautés de son corsage, lorsque la femme de chambre apporta le jupon et acheva l'œuvre en donnant une robe. Pendant qu'Amélie, sur un signe de la femme de chambre, agrafait la robe par derrière et aidait la duchesse, la soubrette alla prendre des bas en fil d'Écosse, des brodequins de velours, un châle et un chapeau. Amélie et la femme de chambre chaussèrent chacune une jambe. « Vous êtes la plus belle femme que j'ai vue !» dit habilement Amélie en baisant le genou fin et poli de Diane par un mouvement passionné. « Madame n'a pas sa pareille !» dit la femme de chambre. « Allons, Josette, taisez-vous » répliqua la duchesse. « Vous avez une voiture ? » dit-elle à Madame Camusot. « Allons, ma petite belle, nous causerons en route. » Et la duchesse descendit le grand escalier de l'hôtel de Cadignan en courant et en mettant ses gants, ce qui ne s'était jamais vu. « À l'hôtel de Grandlieu et promptement !» dit-elle à l'un de ses domestiques en lui faisant signe de monter derrière la voiture. Le valet hésita, car cette voiture était un fiacre. « Ah, madame la duchesse, vous ne m'aviez pas dit que ce jeune homme avait des lettres de vous. Sans cela, Camusot aurait bien autrement procédé. » La situation de Léontine m'a tellement occupée que je me suis entièrement oubliée, dit-elle. La pauvre femme était déjà quasi folle avant-hier. Jugez de ce qu'a dû produire de désordre en elle le fatal événement. Ah, si vous saviez, ma petite, quelle matinée nous avons eue hier! Non, c'est à faire renoncer à l'amour. Hier, traînées toutes les deux, Léontine et moi, par une atroce vieille, une marchande à la toilette, une maîtresse-femme, dans cette sentine puante et sanglante qu'on nomme la justice. Je lui disais, en la conduisant au palais, « N'est-ce pas à tomber sur ses genoux et à crier, comme Madame de Nucingen, quand, en allant à Naples, elle a subi l'une de ces tempêtes effrayantes de la Méditerranée ? Mon Dieu, sauvez-moi et plus jamais ! Certes, voici deux journées qui compteront dans ma vie. Sommes-nous stupides d'écrire ? Mais on aime. On reçoit des pages qui vous brûlent le cœur par les yeux, et tout flambe, et la prudence s'en va, et l'on répond. « Pourquoi répondre quand on peut agir ?» dit Madame Camusot. « Il est si beau de se perdre !» reprit orgueilleusement la duchesse. « C'est la volupté de l'âme !» Les belles femmes, répliqua modestement Madame Camusot, sont excusables. Elles ont bien plus d'occasions que nous autres de succomber. La duchesse sourit. « Nous sommes toujours trop généreuses, » reprit Diane de Maufrigneuse. « Je ferai comme cette atroce Madame d'Espard. » « Et que fait-elle ? » demanda curieusement la femme du juge. « Elle a écrit 1000 billets doux. « Tant que cela !» s'écria la Camusot en interrompant la duchesse. « Eh bien, ma chère, on n'y pourrait pas trouver une phrase qui la compromette. » « Vous seriez incapable de conserver cette froideur, cette attention, » répondit Madame Camusot. « Vous êtes femme, vous êtes de ces anges qui ne savent pas résister au diable. Je me suis jurée de ne plus jamais écrire. Je n'ai dans toute ma vie écrit qu'à ce malheureux Lucien. Je conserverai ses lettres jusqu'à ma mort.
Ma chère petite, c'est du feu. On en a besoin quelquefois. »
« Et si on les trouvait ? »
fit la Camusot avec un petit geste pudique.
« Oh, je dirais que c'est les lettres d'un roman commencé, car j'ai tout copié, ma chère, et j'ai brûlé les originaux. »
« Oh, madame, pour ma récompense, laissez-moi les lire. »
« Peut-être, » dit la duchesse. « Vous verrez alors, ma chère, qu'il n'en a pas écrit de pareils à Léontine. » Ce dernier mot fut toute la femme de tous les temps et de tous les pays. Semblable à la grenouille de la fable de La Fontaine, madame Camusot crevait dans sa peau du plaisir d'entrer chez les Grandlieu en compagnie de la belle Diane de Maufrigneuse. Elle allait former, dans cette matinée, un de ces liens si nécessaires à l'ambition. Aussi s'entendait-elle appeler « Madame la Présidente ». Elle éprouvait la jouissance ineffable de triompher d'obstacles immenses, et dont le principal était l'incapacité de son mari. Secrète encore, mais qu'elle connaissait bien.
Faire arriver un homme médiocre.
C'est pour une femme, comme pour les rois, se donner le plaisir qui séduit tant les grands acteurs, et qui consiste à jouer 100 fois une mauvaise pièce. C'est l'ivresse de l'égoïsme. Enfin, c'est en quelque sorte les saturnales du pouvoir. Le pouvoir ne se prouve sa force à lui-même que par le singulier abus de couronner quelque absurdité des palmes du succès, en insultant au génie, seule force que le pouvoir absolu ne puisse atteindre. La promotion du cheval de Caligula, cette farce impériale, a eu et aura toujours un grand nombre de représentations. En quelques minutes, Diane et Amélie passèrent de l'élégant désordre dans lequel était la chambre à coucher de la belle Diane à la correction d'un luxe grandiose et sévère chez la duchesse de Grandlieu. Cette Portugaise très pieuse se levait toujours à 8 heures pour aller entendre la messe à la petite église de Sainte-Valère, succursale de Saint-Thomas d'Aquin, alors située sur l'esplanade des Invalides. Cette chapelle, aujourd'hui démolie, a été transportée rue de Bourgogne, en attendant la construction de l'église gothique qui sera, dit-on, dédiée à Sainte Clotilde. Aux premiers mots, dits à l'oreille de la duchesse de Grandlieu par Diane de Maufrigneuse, la pieuse femme passa chez monsieur de Grandlieu, qu'elle ramena promptement. Le duc jeta sur madame Camusot un de ces rapides regards par lesquels les grands seigneurs analysent toute une existence, et souvent l'âme. La toilette d'Amélie aida puissamment le duc à deviner cette vie bourgeoise depuis Alençon jusqu'à Mantes et de Mantes à Paris. Ah, si la femme du juge avait pu connaître ce don des ducs, elle n'aurait pu soutenir gracieusement ce coup d'œil poliment ironique. Elle n'en vit que la politesse. L'ignorance partage les privilèges de la finesse. C'est madame Camusot, la fille de Thirion, un des huissiers du cabinet, dit la duchesse à son mari. Le duc salua très poliment la femme de robe, et sa figure perdit quelque peu de sa gravité. Le valet de chambre du duc, que son maître avait sonné, se présenta. « Allez, rue Honoré Chevalier, prenez une voiture. Arrivez là, vous sonnerez à une petite porte au numéro 10. Vous direz au domestique qui viendra vous ouvrir la porte que je prie son maître de passer ici. Vous me le ramènerez si ce monsieur est chez lui. Servez-vous de mon nom. Il suffira pour aplanir toutes les difficultés. Tâchez de n'employer qu'un quart d'heure à tout faire. » Un autre valet de chambre, celui de la duchesse, parut aussitôt que celui du duc fut parti. « Allez de ma part chez le duc de Chaulieu. Faites-lui passer cette carte. » Le duc donna sa carte, pliée d'une certaine manière. Quand ses deux amis intimes éprouvaient besoin de se voir à l'instant pour quelque affaire pressée et mystérieuse qui ne permettait pas l'écriture, ils s'avertissaient ainsi l'un l'autre. On voit qu'à tous les étages de la société, les usages se ressemblent et ne diffèrent que par les manières, les façons, les nuances. Le grand monde a son argot, mais cet argot s'appelle le style.